Le débat du jour. Guillaume Nodin.
Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour le débat du jour. Emmanuel Macron est en Grèce aujourd'hui et demain. Il prononce ce soir un discours pour exposer son projet de refondation de l'Europe, pour en faire une Europe qui protège. Ce discours devrait être écouté avec attention et disons-le peut-être avec un peu de circonspection dans un pays qui est en proie depuis 2008 à la récession et à l'austérité imposée par ses créanciers. Car oui, cela fait 9 ans maintenant que la Grèce est en crise, que le salaire minimum et les retraites baissent, que plus de la moitié des jeunes sont au chômage et que les chèques européens sont conditionnés à des programmes de réforme et de privatisation drastiques. 9 ans d'austérité, c'est plus que n'importe quel autre pays au monde. L'austérité jusqu'où, en Grèce ou ailleurs, c'est la question de ce débat. Et pour y répondre, nous avons le plaisir de recevoir en studio deux invités, deux économistes. Henri Sterdyniak, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur du département économie de la mondialisation à l'OFCE, l'Observatoire français des conjonctures économiques, et professeur associé à l'université Paris-Neuf-Dauphine. Et les auditeurs de RFI vous connaissent puisque nous vous sollicitons souvent pour leur expliquer l'actualité macroéconomique. Et Thierry Philipponat, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur de l'Institut Friedland, qui est un cercle de réflexion, un think tank, comme on dit en anglais, qui dépend de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris. Et vous êtes l'auteur de Le capital de l'abondance à l'utilité, c'est aux éditions de la rue de l'Échiquier en 2017. On va poser la question de but en blanc pour commencer. Le cas grec n'est-il pas la démonstration de l'échec des politiques d'austérité ? Henri Sterdyniak.
Oui, enfin c'est un cas tout à fait extrême. Hein, je veux dire, il y a eu des politiques, après la crise, il y a eu des politiques d'austérité qui ont été imposées à tous les pays européens. On n'a pas voulu... L'Europe n'a pas voulu avoir une stratégie de croissance, elle s'est préoccupée avant tout d'avoir une stratégie de récupération des finances publiques qui a été imposée à tous les pays à des degrés différents. Hein, certains pays ont été obligés de se plier aux injonctions de la Troïka, c'est-à-dire l'ensemble formé par la Commission, la BCE et le FMI,
oui.
Et ça a été particulièrement net pour la Grèce, qui a du coup dû faire des efforts, et son PIB a chuté de 25%, et quand on relit ce qui se disait à l'époque, il y avait un optimisme, si on peut dire, de la Troïka, et de ses experts qui disaient, ben oui, effectivement, il va y avoir de l'austérité, mais ça va permettre de repartir grâce à... des mécanismes de confiance et effectivement...
Manifestement,
c'est pas passé comme ça.
Thierry Philipponat, qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que ce cas grec est emblématique et est-ce que c'est la preuve que l'austérité jusqu'au bout, l'austérité à fond, ça ne marche pas ?
Ma réponse très brève, c'est oui. C'est la démonstration parfaite du fait que quand un pays est dans une situation où il n'arrive pas à rembourser sa dette, alors on pourrait rentrer dans toutes les raisons, et elles sont complexes et nombreuses, mais si un pays n'arrive pas à rembourser sa dette, c'est pas en l'empêchant de développer son activité économique qu'il va réussir à la rembourser. Vous savez, jusqu'au 19e siècle, quand une personne physique était trop endettée, on la mettait en prison. Puis un jour, on a réalisé que mettre quelqu'un en prison parce qu'il était endetté, c'était juste idiot. Parce que si quelqu'un est en prison, il a juste aucune capacité ou possibilité de gagner de l'argent et de rembourser sa dette. Donc on s'est dit, c'est pas la bonne façon. L'austérité telle qu'elle était pratiquée en Grèce, c'est l'exact équivalent au niveau d'un pays de mettre quelqu'un en prison parce qu'il a des dettes. Alors on peut analyser pourquoi il a des dettes et il y a des vrais sujets à traiter, mais c'est pas en l'empêchant de travailler qu'on va lui permettre de rembourser.
Henri Sterdyniak, on empêche les Grecs de travailler depuis 8-9 ans?
Oui, c'est-à-dire que les politiques d'austérité, contrairement à ce qu'on a pu dire, ça tue complètement l'appareil productif. Hein. C'est pas parce qu'on empêche les gens de consommer que, en contrepartie, les entreprises investissent. Donc, la Grèce est complètement tuée par manque de demande. Et par ailleurs, on a imposé à la Grèce une sorte de pillage complet, c'est-à-dire que la Grèce a été contrainte est toujours contrainte d'ailleurs, de vendre tous ses actifs à l'étranger à des prix bradés. Et donc, ses ports, ses aéroports,
oui,
un certain
le port
nombre
du Pirée qui a été vendu aux Chinois.
Voilà, sont achetés, soit par la Chine, soit très souvent par l'Allemagne, quelquefois par la France. Et tout ça, c'est pas porteur pour l'avenir. Et c'est pas du tout un programme dans lequel on aurait, c'est pas du tout un plan Marshall dans lequel on aurait dit la Grèce est en difficulté. Il y a eu des erreurs qui ont été commises à la fois par les Grecs, par l'Europe, par les marchés financiers
et par les créanciers effectivement.
Par les créanciers, par les marchés financiers. Donc on partage on partage les pertes et on donne à la Grèce ses moyens de repartir.
Oui, alors il y a dans cette réponse d'Henri Sterdyniak, il y a un côté intéressant, c'est le côté humiliant de l'austérité, Thierry Philipponin. On va expliquer comment ça se passe. Clairement, quand il y a une nouvelle tranche d'aide du plan de 86 milliards d'euros qui a été décidé il y a 2 ans, qui est négocié, on convoque le gouvernement grec à Bruxelles et on leur dit, ben, nos amis grecs, on veut bien vous donner votre chèque, mais si vous le voulez, est-ce que vous avez réalisé telle ou telle réforme, telle ou telle privatisation qu'on vous a demandé, et puis on leur en rajoute un petit peu. On a l'impression d'un tribunal, en fait, pour la Grèce.
Alors oui, c'est un vrai problème. Et ce côté humiliant, il faut pas le négliger, parce que évidemment derrière il y a des personnes, il y a des êtres humains, et c'est pas en humiliant les gens qu'on fait quoi que ce soit. Et on nourrit les extrêmes. Les extrêmes en Grèce, ça s'appelle l'aube dorée. Et on voit bien que dans les politiques d'extrême réduction des retraites de certains fonctionnaires grecs, où les chiffres vont jusqu'à 300 euros par mois, donc les gens ne peuvent pas avoir une vie même vaguement décente avec
ça.
Le
salaire minimum en Grèce est passé en quelques années de pratiquement 800 euros à 600. Hein.
Voilà. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, des mouvements politiques, puisque vous parlez d'humiliation, donc on parle forcément politique, type aube dorée, vont aider les gens en disant « vous inquiétez pas, madame, vous vivez misérablement ». Et oui, cette dame vit misérablement et c'est comme ça qu'il gagne des voix. Donc on a une dimension politique qui est absolument considérable dans cette dimension-là. Dans ce que disait Henri Sterdyniak tout à l'heure, il a dit quelque chose qui me semble très important, qu'on pourrait peut-être approfondir, qui a dit « il faut partager les responsabilités ». Et les responsabilités, elles sont à 3 niveaux de mon point de vue. Elles sont au niveau de la Grèce. Je pense qu'une analyse précise de la situation ne dit pas que la Grèce est parfaite. D'accord, très bien, c'est l'une des 3 responsabilités. Elles sont au niveau de l'Union européenne, et j'y reviens dans une seconde parce que c'est très important de voir pourquoi. Et puis elles sont au niveau des créanciers, des prêteurs. Au niveau de la Grèce, la gestion, elle est certainement très très imparfaite, et on en a beaucoup parlé, je rentre pas dans cette question maintenant. Mais ce n'est qu'une partie de l'histoire, donc ne nous concentrons pas uniquement sur cette question-là. Au niveau de l'Union européenne, il faut pas oublier, on va pas rentrer dans la théorie économique maintenant, mais que les déficits des uns sont les surplus des autres. Donc, si on a un déficit qui est intenable en Grèce aujourd'hui, c'est parce qu'il y a en face des surplus qui sont pas tenable non plus, notamment celui de l'Allemagne. L'Allemagne, cette année, va avoir un excédent budgétaire qui représente 36 milliards d'euros, soit 1,2% de son PIB. Ce n'est pas tenable, parce que mécaniquement, dans un monde, alors le monde est un peu plus complexe, il n'y a pas que 2 acteurs, mais si j'ai 36 milliards d'excédents, vous avez 36 milliards
de
déficit.
On est dans un monde qui fonctionne sur l'emprunt et sur le déficit.
Voilà. Donc, alors, j'ai pris un petit raccourci, parce qu'il faudrait convertir le déficit budgétaire en déficit du commerce extérieur, mais on peut le montrer.
L'Allemagne a un excédent de 8% de son PIB. Voilà. C'est la même chose pour les Pays-Bas. Et donc tout ça, ben, ça pèse sur les pays du Sud.
Et donc
c'est un élément important de l'histoire.
Absolument. Et dire à la Grèce, c'est pas tenable, soyez donc en excédent comme nous, c'est un oxymore, c'est une contradiction dans les termes. On peut pas avoir tout le monde en excédent. Non. Donc si vous voulez que la Grèce réduise ses déficits, réduisez vos excédents. Et il y a une façon de faire pour ça. Et puis la troisième chose, c'est les créanciers.
Pour le dire clairement, la façon de faire, c'est de payer une partie de la dette.
Alors non, justement, ça c'était la troisième partie. Vous avez raison, mais ce vers quoi je pointais là, c'est qu'il faudrait que des pays, notamment comme l'Allemagne, pas exclusivement, mais augmentent leurs salaires, dépensent plus en infrastructures.
Dépensent plus en retraite, puisqu'il y a beaucoup maintenant
de retraités
allemands pauvres, il y a beaucoup de salariés allemands pauvres, et donc ça fait partie de l'histoire.
Et mécaniquement, sur la durée, ça contribuerait à rééquilibrer ce qui est totalement déséquilibré aujourd'hui. Et la troisième chose, vous l'avez dit, c'est les créanciers. Eh bien, il y a quelque chose qu'on semble avoir oublié totalement, c'est que, bien sûr, il est normal, il est légitime, compréhensible qu'un créancier n'ait pas envie de perdre d'argent. Mais la réalité d'une finance qui fonctionne bien, c'est que quand on a prêté de l'argent à un mauvais débiteur, eh ben, il y a un moment, on a perdu de l'argent.
On assume ses risques, c'est ce que vous voulez dire?
On assume ses risques, et puis quand le risque se matérialise, bien sûr que ça fait pas plaisir, mais il y a un moment, il faut couper.
Alors,
Et la dette de la Grèce aujourd'hui n'est pas tenable. 200% du PIB, on peut raconter tout ce qu'on veut, mais il y a un moment, il faudra couper.
Alors, et on va peut-être élargir un petit peu le sujet, parce que on se souvient, il n'y a pas que l'exemple grec dans l'histoire des politiques d'austérité, on se souvient notamment de ce que le FMI a pu faire en Argentine. Même le FMI est revenu de toutes ces questions de politique d'austérité. Ça a l'air d'être un consensus parmi la communauté des économistes pour dire que ça marche pas, quoi.
Hein? Ça marche pas. Non, ce qui est très amusant, c'est que le FMI s'était persuadé que ça marchait pas, notamment avec Dominique Strauss-Kahn, et donc brusquement on a dit au FMI venez en Europe pour appliquer à la Grèce, à l'Irlande et puis au Portugal, des remèdes que le FMI lui-même considérait maintenant comme des remèdes périmés. Et c'est pour ça que on a, durant quelques années, un jeu un peu bizarre où le FMI dit « Ben non, vos politiques d'austérité vont pas marcher, il faut aussi... que vous acceptiez de réduire la dette grecque, et que l'Allemagne ne veut pas prendre ses pertes. Et donc on a, et la Grèce actuellement, enfin dans les dernières négociations, a été pris en tenaille entre le FMI qui dit ce que l'Europe vous impose, ben ça marchera pas, si en même temps l'Allemagne n'accepte pas de perte de sur ses créances, et puis l'Allemagne qui dit, ben si, ça va marcher, et d'ailleurs on va vous demander encore plus d'austérité. Et les malheureux Grecs ont été pris dans l'histoire.
C'est pour ça que le FMI se fait tirer l'oreille pour participer à ce plan d'aide. Absolument. Il y a quand même néanmoins, si on regarde un peu ce qui s'est passé dans d'autres pays d'Europe du Sud, on a l'impression que en Espagne et au Portugal, quand ces politiques d'austérité ont été arrêtées à temps, si je peux dire ça comme ça, ça a quand même facilité la reprise économique par la suite. Qu'est-ce que vous en pensez, Thierry Philipponin ?
Je ne pense pas que ça ait facilité la reprise économique. Il a pu y avoir une reprise économique malgré, mais je ne vois pas comment ça aurait pu la faciliter. Après ça, si...
Une fois que ça a été arrêté, c'est ce que je veux dire. Voilà.
Voilà. Bon, on dit la même chose.
Non, mais
donc c'est important. Mais il y a un phénomène très intéressant même dans la pensée économique. C'est pas pour parler pensée, mais c'est l'application de la pensée économique. C'est ce que vous évoquiez tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il y a le consensus est grandissant vers.
Oui, les économistes de l'Union européenne ne peuvent pas ne pas être au courant.
On a vu il y a une semaine quelque chose d'extraordinaire à la réunion de tous les banquiers centraux de la planète. Y compris la
Jackson
BCE.
Hall, oui.
Voilà, Jackson Hole. Il y a eu une présentation de deux professeurs de Berkeley, sur le thème de l'austérité ne marche pas, exactement notre débat de ce soir. Et il y avait réception de tous les banquiers centraux de la planète en disant, ah oui, tiens, c'est vrai, ça marche pas. Donc, après ça, vous allez dire, tiens, il y a un paradoxe parce qu'on continue à l'appliquer, notamment à la Grèce, mais pas que. Mais c'est intéressant de voir ça.
Oui. C'est la question, justement. Tout le monde a l'air d'être d'accord dans la communauté des économistes. Pourquoi on continue? Pourquoi Henri Sterdignac ?
D'abord, vous savez que la politique économique, c'est pas seulement ce qu'on pense. Hein. Je veux dire, naturellement,
c'est pas que l'économie,
c'est aussi un choix politique. Hein. Bon, le choix politique au niveau européen, c'est quand même de dire il faut punir les pays qui ont fait des bêtises et il faut que ça serve d'exemple aux autres.
C'est un postulat moral ?
C'est un postulat moral, si vous voulez. D'un côté, donc il y a l'idée, il faut punir la Grèce. D'autre part, quand la Grèce a changé de gouvernement, naturellement, en 2015, la Commission n'allait pas céder à un gouvernement de gauche contre l'austérité, ce qu'il avait refusé au gouvernement précédent. Donc, naturellement, la victoire de Tsipras... Ça a encore aggravé la situation. Ensuite, la Grèce, en quelque sorte, c'est un modèle pour l'Union européenne, puisque l'Union européenne a pu imposer à la Grèce des choses épouvantables qu'elle voudrait imposer à tous les pays, du genre la réduction des dépenses publiques et sociales, un certain nombre de mesures de libéralisation.
Des choses que des pays d'Europe du Nord ne s'imposent pas eux-mêmes, la France par exemple.
Et que la France, voilà. L'histoire horrible, c'est qu'on a imposé un document horrible à la Grèce avec 2400 pages dans lequel on prévoyait en détail tout ce que la Grèce devait faire. Et dans certains domaines, on allait beaucoup plus loin que ce qui se pratique en France ou en Allemagne. Vous imaginez qu'on est allé dans le détail, dire comment la Grèce devait gérer ses pharmacies, ses, même les laiteries, tout ça pour, au nom de la libéralisation, des choses qui ne se font pas en France, quoi.
Thierry Philipponin, votre avis, pourquoi on continue à imposer tout ça à la Grèce?
En complément à ce qui vient d'être dit, deux raisons. Il y a une question de rapport de force politique entre pays européens.
Au sein de l'Union européenne.
Au sein de l'Union européenne. Et cette politique est clairement, et sans aucun doute, une façon pour les pays, on va dire, créanciers, d'imposer un rapport de force en leur faveur aux pays débiteurs. Donc ça, c'est du rapport de force politique pur et dur. La deuxième raison, c'est un rapport de force aussi, mais qui est là entre les créanciers et les débiteurs, ce qui n'est pas tout à fait la même chose, parce qu'il y a le rapport de force politique pour imposer, on va dire, une certaine vision des choses qui va en faveur des pays, ce que je viens de dire. Et puis, il y a des créanciers qui veulent pas perdre leur argent, même s'ils ont prêté, appelons un chat, à mauvais escient. Donc, c'est le côté, je fais tout ce que je peux pour récupérer mon argent parce que je veux pas le perdre.
Ça veut dire
ce qui est une histoire vieille comme le monde. Hein,
ça veut dire qu'on a, un peu comme sur l'exemple argentin, des fonds vautours en Europe qui se sucrent sur la Grèce, si je peux dire ça comme ça, ou qui voudraient.
Je ne sais pas s'il n'y en a pas à la marge, mais ce n'est pas la question centrale. La question centrale, c'est un créancier pas plus vautour que n'importe quel créancier du monde, au sens de quelqu'un qui investit dans l'obligation grecque ou qui a prêté de l'argent à un grec ou une entité grecque, qui veut récupérer son argent et qui, évidemment, va faire monter la pression pour être remboursé perdre sur sa créance. Et c'est les Anglais ont une expression qui est assez jolie, qui est le pretend and extend. Donc au lieu de résoudre un problème de dette, on prétend qu'il n'y a pas de problème et on allonge la maturité. Voilà. Et avec la Grèce, c'est ce qu'on fait, c'est-à-dire qu'on dit pas je coupe, on dit vous allez me rembourser plus tard, etc.
Nous on pourrait le faire à la banque.
Et surtout
par
pour le créancier en comptabilité, il dit ah j'ai pas perdu parce que je serai remboursé un jour, etc.
La dette grecque actuellement, la dette grecque problématique est détenue en quasi-totalité par les pays européens. Et donc, c'est plus une question de dette privée. Hein. C'est une question, l'Allemagne, la France, on a des créances sur la Grèce.
Hein. Les Pays-Bas aussi.
Les Pays-Bas, enfin, tous les pays européens, on a des créances sur la Grèce. On veut pas prendre nos pertes.
Voilà.
Et puis, on veut pas dire clairement, OK, on donne 100 ans à la Grèce pour rembourser, on met ça dans un petit coin et on oublie, ce qui, du point de vue de l'ingénierie financière, pourrait se faire. Et donc, la solution qu'on a choisie, c'est que, on dit à la Grèce, vous devrez rembourser progressivement, ce qui permet quand même tous les ans d'aller retourner à Athènes, tous les 6 mois, on refait pression sur la Grèce pour lui dire vous avez besoin de 10 milliards d'euros. Ces 10 milliards d'euros, en fait, ça sert à rembourser l'Allemagne et la France. Et l'Allemagne et la France, pour lui reprêter ces 10 milliards d'euros, ils mettent des conditions supplémentaires. Donc, c'est, contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est pas des nouveaux prêts qu'on fait à la Grèce, c'est simplement on prête à la Grèce pour qu'elle puisse fictivement nous rembourser. Voilà. Mais l'avantage, c'est que du coup, on peut faire une pression continuelle sur la Grèce.
Thierry Philipponin, est-ce qu'il n'y a pas aussi clairement des raisons de politique intérieure, je pense néerlandaise et surtout allemande?
Bien sûr.
Est-ce qu'on ne peut pas imaginer, par exemple, que le 24 septembre, le jour des élections en Allemagne, si Angela Merkel est réélue, peut-être que ce jour-là, la pression va peut-être un tout petit peu s'alléger?
Alors, elle va sûrement s'alléger un petit peu parce que le cycle politique est ce qu'il est. J'aimerais que ça soit le cas. Je suis pessimiste. Et si le FMI ne suit plus aujourd'hui et dit il faut couper la dette, pour le coup, le FMI aujourd'hui a raison. Et à l'été 2018, qui est la prochaine renégociation, on va retomber dans la même histoire qu'on a déjà entendue.
Merci messieurs, merci Thierry Philipponin, merci Henri Sterdignac. C'est déjà fini, ça va très vite. Merci à Valentin Vaner qui était à la réalisation et à Florence Ponce qui a aidé à préparer cette émission.